Et le journal est présenté par Tara Schlegel. Bonsoir Tara.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Comment répondre aux gilets jaunes alors que le mouvement a dégénéré et généré des violences sans précédent ce week-end? Opération déminage à Matignon, une trentaine d'élus ont été reçus toute la journée par le Premier ministre. Nous serons avec Alexandra Dubouchereau dans moins d'une minute. Opération sanction au Palais de justice de Paris, 57 personnes manifestants jugées en comparution immédiate. Florence Sturm a suivi les audiences du jour. Comment maintenir l'ordre après les violences du week-end? Question soulevée par les syndicats de police, nous dira Antoine Marie. Et puis les lycéens entrent dans le mouvement avec un mot d'ordre différent, mais il pourrait y avoir convergence des luttes. Nous entendrons l'UNL, l'un de leurs syndicats. À l'étranger, nous verrons aussi que l'université de George Soros quitte finalement la Hongrie. Le gouvernement de Viktor Orban a gagné. Et puis nous irons en Pologne où se tient la COP24. Comment déminer la crise politique des gilets jaunes après l'acte 3, samedi dernier, qui a entraîné des violences sans précédent sur les Champs-Élysées et dans plusieurs villes en France? Une femme de 80 ans est morte hier soir, probablement victime des échauffourées qui se sont produites à Marseille. Elle était en train de fermer ses volets quand elle semble avoir été victime d'un jet de grenade lacrymogène. Hospitalisée, elle est décédée d'un choc opératoire. L'IGPN, la police des polices, a été saisie. Nous reviendrons sur le maintien de l'ordre dans un instant, mais d'abord place aux négociations. Politique qui implique directement le Premier ministre depuis ce matin. 32 élus se succèdent à Matignon. Où vous vous trouvez, Alexandra Dubouchereau? Bonsoir.
Bonsoir Tara, bonsoir à tous.
Édouard Philippe est en première ligne à la demande expresse du chef de l'État. Il reçoit donc tour à tour les représentants des partis politiques. Les socialistes ce matin ont demandé par la voix d'Olivier Faure que Jupiter descende de l'Olympe. Laurent Wauquiez pour les Républicains réclame des mesures et pas seulement un débat. Et cet après-midi, Alexandra, ce sont les extrêmes, si j'ose dire, qui étaient reçus, à commencer par Marine Le Pen.
Oui, une présidente du Rassemblement National alarmiste qui estime qu'il ne reste que quelques heures à Emmanuel Macron pour mettre fin à sa stratégie de la confrontation avec les gilets jaunes, dit-elle. Comme tous les dirigeants qui ont défilé aujourd'hui, elle demande l'annulation de la hausse des taxes sur le carburant, mais elle demande aussi des mesures pour le pouvoir d'achat.
Nous lui avons indiqué qu'il fallait également une baisse significative du prix de l'électricité et du gaz, qu'il ne pouvait pas faire l'impasse sur une augmentation des salaires minimums et retraites minimums, et que on ne pouvait résoudre la crise politique, qui est une crise de la représentativité, qu'en mettant en œuvre la proportionnelle.
Marine Le Pen qui, comme Jean-Luc Mélenchon, a déjà appelé ces derniers jours à la dissolution de l'Assemblée nationale. Le dirigeant de la France insoumise, lui, n'est pas venu tout à l'heure, prétextant un conflit d'agenda. À la place, il a envoyé une délégation d'insoumis. Et cette délégation est allée encore plus loin à l'instant, en sortant de Matignon. Elle a réclamé la convocation d'une assemblée constituante. La France insoumise et les communistes menacent de déposer une motion de censure. Ils pourraient être rejoints par le PS si rien ne bouge, a déclaré tout à l'heure le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. A noter enfin que Nicolas Dupont-Aignan a rapidement coupé court à son entretien car il ne pouvait pas filmer.
Alors Alexandra, la question du dispositif de sécurité mis en place pendant les manifestations est elle aussi mise sur la table?
Oui, par Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI avait notamment en tête les échauffourées de ce samedi à Paris. La situation est ingérable et devient dangereuse, dit-il, parlant même de risque de révolution. Le député pointe des casseurs issus, selon lui, de l'extrême droite et de l'extrême gauche, et il propose une mesure.
Il y a quelques années, nous avions des lois, parce que quand il y avait du hooliganisme dans les stades, on interdisait à un certain nombre de gens de sortir de chez eux. Et nous souhaiterions que la loi évolue aussi pour faire en sorte que ces casseurs professionnels ne puissent pas sortir chez eux le jour de manifestation, afin que les vrais gilets jaunes puissent pacifiquement exposer leurs revendications légitimes. Il ne suffit pas de dire qu'elles sont légitimes à la télé, il faut aussi savoir les protéger.
Mesures sécuritaires, mesures pour la transition écologique ou encore pour le pouvoir d'achat. Pour l'heure, rien ne filtre sur ce que pourrait proposer le Premier ministre à l'issue de ces consultations. Mais cela pourrait bien être mercredi ou jeudi.
Alexandra Dubouchereau, merci. On entend autour de vous beaucoup d'effervescence à Matignon. Cette question de la sécurité, effectivement, est dans toutes les têtes. Le chef de l'État a d'ailleurs déjeuné dans une caserne du 20e arrondissement avec des CRS aujourd'hui venus pour sécuriser la capitale samedi. Emmanuel Macron voulait leur exprimer son soutien. 133 blessés rien qu'à Paris, une femme donc décédée à Marseille. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et son secrétaire d'État seront auditionnés par la commission des lois tout à l'heure à l'Assemblée nationale. La place Beauvau annonce aussi que le ministre de l'Intérieur recevra les syndicats de policiers demain matin. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Des syndicats très remontés qui pour certains au moins réclament l'état d'urgence et l'intervention de l'armée.
Effectivement, c'est le cas notamment d'Allianz. Le secrétaire national adjoint pour l'Île-de-France, Loïc Travers, était l'invité du journal de Midi et demi de France Culture de Benoît Bouscarel.
L'acte 4 s'annonce dramatique si on ne prend pas des décisions cette semaine d'un point de vue sécurité, et notamment le rétablissement momentané de l'état d'urgence. Ces mots peuvent faire peur, mais quand je dis qu'on a besoin des militaires, c'est pas avec les blindés dans la rue et pas pour faire le maintien de l'ordre. C'est pour prendre des points et garder des points qui sont des points statiques pour dégager des forces qui vont se consacrer au maintien de l'ordre. Et en matière d'état d'urgence, on a besoin d'être aidé pour faire le maintien de l'ordre de façon efficace, mais aussi de façon préventive. C'est pour ça qu'il faut que puisse être prononcé par le préfet de police des interdictions de manifester, que l'on puisse établir des zones sécurisées ou qu'on puisse encore assigner à résidence un certain nombre de personnes qui sont les casseurs.
Car des casseurs, il y en a eu samedi et il y en a eu aujourd'hui également, notamment en marge des manifestations lycéennes, en particulier à Aubervilliers et Toulouse. Les revendications des lycéens n'ont pas de lien direct avec celles des Gilets jaunes, on va l'entendre dans un instant, mais des rapprochements semblent s'effectuer, ça et là, une convergence des luttes contre le gouvernement se profile. Et toutes ces manifestations, le week-end, en semaine, à Paris, en province, mobilise sur la durée des effectifs de police et de gendarmerie considérables. Des effectifs qui font face à des manifestants qui ne sont pas encadrés par des syndicats et donc imprévisibles, auxquels se mélangent des activistes d'extrême gauche, d'extrême droite et des casseurs. On compte déjà donc un mort à Marseille, donc cette femme décédée après avoir été touchée à la fenêtre de son domicile par une grenade lacrymogène samedi dernier. La crainte des forces de l'ordre, c'est l'acte 4 samedi prochain. Des appels à une quatrième manifestation circulent déjà sur les réseaux sociaux. Comment contenir des manifestations parfois non déclarées ou qui ne respectent pas le trajet prévu? C'est à ces questions urgentes que le gouvernement doit répondre.
Merci Antoine Maret. Quelle réponse judiciaire apporter face au débordement? Pas moins de 363 personnes placées en garde à vue ce week-end selon le parquet de Paris. Dans la capitale, 57 interpellés ont été déférés aujourd'hui devant la justice. Trois chambres sont mobilisées pour juger en comparution immédiate ces manifestants. Florence Turme, bonsoir. Vous êtes en direct du Palais de Justice, où vous avez suivi la comparution de 7 individus. Forcément, le tableau que vous allez dresser est partiel, car chacun a son histoire. Et les peines viennent d'être prononcées, Florence ?
Oui, alors ils sont 5 copains de l'Essonne. La trentaine venue dans la même voiture est contrôlée peu avant 11h, près de la place de l'Étoile, où les affrontements ont débuté 2h plus tôt. Eux n'ont pas eu le temps d'enfiler leur gilet jaune. Ils sont interpellés en train de partager le matériel qu'ils ont amené, des masques, des lunettes, des gants, du sérum physiologique et des pétards, ce qui leur vaut d'être poursuivis pour détention et transport de produits explosifs. Des pétards pour enfants, insiste l'un des prévenus. Il montre la moitié de son index acheté au magasin de la magie de Corbeil, éventuellement pour mettre un peu d'ambiance, mais pas pour lancer sur les CRS. 4 d'entre eux travaillent dans une grande entreprise d'aéronautique de la région, avec des salaires de 2500 à 3000 euros par mois. Un métier en or que je ne serais pas prêt à perdre, explique un autre, voix à peine audible. Franchement, je suis navrée, c'est ma première garde à vue. Je voulais surtout représenter ma petite fille parce que je ne sais pas ce qui va se passer pour elle. Tour à tour, ils décrivent leur quotidien. Des trentenaires insérés socialement, résume la procureure, mais tous en difficulté financière au regard des charges auxquelles ils ne peuvent plus faire face. Parents malades, divorce, enfants à charge, crédit à la consommation. Sur le banc, ils hochent la tête en silence. Pas le moindre début d'acte contre les forces de l'ordre, plaide leur avocat. Mais le tribunal vient de suivre les réquisitions du procureur en prononçant des peines de 3 mois avec sursis, jusqu'à 3 mois ferme pour l'un d'eux qui s'effondre en pleurs. Messieurs, vous avez pris vos responsabilités, vous assumez, assène la présidente, en ajoutant pour tous l'interdiction pendant 1 an de venir dans Paris intramuros.
Merci beaucoup Florence Turme, en direct donc du Palais de Justice. Jusqu'où ira le mouvement des Gilets jaunes, mouvement multiforme, 50 ans après Mai 68, y aura-t-il convergence des luttes? C'est l'une des grandes questions. La CGT en tout cas appelle à une journée d'action pour augmenter le pouvoir d'achat le 14 décembre. Olivier Besancenot du NPA veut une grève générale. Et les lycéens, de leur côté, ont décidé d'entrer dans la danse. Une centaine d'établissements ont débrayé aujourd'hui avec quelques violences à Toulouse, Aubervilliers, Gagny notamment. Pour l'instant, le mot d'ordre est différent. Protester contre Parcoursup et les conditions d'études. Mais finalement, le mouvement pourrait bien rejoindre la colère ambiante, expliquent les syndicats. Louis Boyard préside l'UNL.
si les gilets jaunes se mobilisent, c'est parce qu'ils ont un quotidien difficile, parce qu'ils avaient des attentes de la part du gouvernement et que le gouvernement n'a pas su les satisfaire. Et ben chez les lycéens, c'est la même chose. On a un quotidien difficile, on est 35 par classe, il nous manque des professeurs, les réformes nous inquiètent. Et surtout, le gouvernement il répond pas à nos attentes parce qu'il détruit le service public sur le côté. Donc finalement, en fait, on se mobilise pour les mêmes problématiques que les gilets jaunes, à savoir avoir un gouvernement qui réponde à nos attentes et qui préserve le service public. Donc la question, est-ce que les lycéens sont gilets jaunes ou pas? Oui, vous allez avoir des lycéens qui vont porter des gilets jaunes sur les blocus. Et c'est très bien, ils ont raison de se mobiliser et d'afficher une étiquette, mais il faut aller plus loin que les étiquettes et les couleurs et tout simplement exprimer sa colère dans la rue en tant que lycéen. Et justement, ce n'est pas normal. Regardons dans les pays du Nord, ils ne sont pas 35 par classe. Et ça devrait être un exemple. Nous aussi, quand on est lycéen, on peut demander des avancées sociales. Parce que aujourd'hui, je vous assure, c'est difficile d'étudier dans des classes où le professeur n'a pas le temps de pouvoir expliquer les choses, où les choses se font à la va-vite. Et en fait, on se retrouve plus à avoir une école-usine qui bourre le crâne des élèves de connaissances en espérant que ça fonctionne. Et dans les faits, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Et c'est ça qui entraîne des grosses inégalités sociales à la sortie de l'école.
Le président de l'Union nationale lycéenne avec Hakim Kasmi. J'ajoute pour finir qu'Emmanuel Macron envisage un report de son déplacement prévu en Serbie. À l'étranger, la gauche est sonnée en Espagne après l'entrée de 12 députés d'extrême droite dans le Parlement régional d'Andalousie, 11% des voix. C'est la première fois depuis la mort de Franco qu'une formation de ce type parvient au pouvoir. Le parti Vox, né en 2013, vient donc de créer la surprise de mettre en grande difficulté les socialistes arrivés en juin dernier à Madrid, dans la capitale, et incapables pour l'instant de faire voter leur budget. La grande inconnue reste celle de l'alliance qui pourrait se nouer à Séville entre ce parti Vox et les conservateurs du PP et de Ciudadanos qui ont obtenu 21 sièges. À eux trois, ils sont capables de renverser les socialistes qui tiennent la région andalouse depuis plus de 30 ans. George Soros jette l'éponge. L'université fondée par le milliardaire américain en Hongrie vient d'annoncer qu'elle allait bien fermer ses portes après un bras de fer de plusieurs mois avec le gouvernement Orban. C'est un fait sans précédent, assure son recteur, qu'un établissement américain soit chassé d'un pays de l'OTAN. À Budapest, les explications de Florence Labruyère.
C'est un jour sombre pour la Hongrie et pour la liberté de l'enseignement. Nous sommes chassés du pays. C'est avec ces mots que la direction de l'Université d'Europe centrale a annoncé son transfert en Autriche. L'institution est forcée de partir car le gouvernement de Viktor Orban refuse de prolonger son accréditation. Pour Liviu Mattei, recteur adjoint de l'université, c'est une décision politique de Viktor Orban.
L'origine de tous nos problèmes est politique, c'est parce que M. Orban n'aime pas l'éducation libre, n'aime pas la liberté des universités. Et par ailleurs, c'est pas seulement notre université qui est concernée. Le Parlement hongrois a changé la loi fondamentale, la Constitution, et le principe de la liberté académique n'est plus protégé.
Liviu Mattei et ses collègues de l'Université d'Europe centrale se sentent abandonnés par l'Union européenne, et notamment par le Parti populaire européen, qui n'a pris aucune sanction contre le Fidesz, le parti nationaliste de Viktor Orban.
Le Parti populaire européen, ils ont considéré, par exemple, d'exclure Fidesz de cette famille politique, mais pour des raisons politiques, ils ont décidé de faire semblant que rien ne se passe. C'est une expression d'impuissance de leur côté, sinon de lâcheté.
L'Université d'Europe centrale maintiendra des formations à Budapest, mais à partir de 2020, la majorité des cours aura lieu à Vienne, en Autriche.
Florence Labruyère en Hongrie. L'urgence climatique à Katowice, en Pologne, où la COP24 a débuté ses travaux avec le triste constat que chacun emprunte désormais le chemin qu'il veut pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris et tenter de réduire le réchauffement de notre planète. La Banque mondiale, cela dit, a annoncé un geste spectaculaire aujourd'hui, 200 milliards de dollars mobilisés d'ici 2025 pour aider les pays du Sud à s'adapter au changement climatique. Sur place, notre correspondant Thomas Giraudeau.
Montrer l'exemple, c'est clairement le message adressé par la Banque mondiale à Katowice. L'institution double son budget pour verser entre 2021 et 2025 40 milliards de dollars par an aux pays en développement. C'est trois fois plus que sur la période 2014-2018. La Banque mondiale mobilise des fonds privés ainsi que des financements directs pour aider les pays en développement à s'adapter aux dérèglements climatiques, c'est-à-dire aux tempêtes, aux sécheresses, aux inondations, par la construction de digues ou la mise en place de systèmes d'alerte météo afin de protéger protéger les populations. Une annonce attendue de longue date par les pays du Sud qui espèrent aussi de la part de ceux du Nord des engagements financiers clairs. Aujourd'hui, la Banque mondiale les a d'ailleurs poussés à être plus généreux, à dépenser davantage, car cela fait déjà 10 ans que les pays les plus riches promettent un chèque annuel de 100 milliards de dollars à destination des pays en développement. Mais la somme n'a pour l'instant jamais été atteinte. En 2015-2016, à peine la moitié avait été réunie selon l'ONG Oxfam. Le financement des politiques d'adaptation au changement climatique doit être une des questions clés de cette COP24 à Katowice. Mais l'absence de la plupart des grands dirigeants des pays développés envoie clairement un mauvais signal aux pays les plus pauvres.
Illustration à présent de l'indispensable révolution culturelle qu'il nous faut mettre en œuvre si nous voulons limiter les émissions de gaz à effet de serre. En Allemagne, la mine de charbon de Bottrop dans la Ruhr va fermer avant Noël. C'est un reportage de Pascal Thibault de RFI pour France Culture.
42 km/h, l'ascenseur de la mine Prosper-Agnel s'enfonce rapidement dans le sous-sol de la Ruhr. Cette grande cage métallique qui descend jusqu'à moins 1200 mètres est régulièrement secouée. Des bruits sourds retentissent dans la pénombre. Les passagers sont tous habillés à l'identique, protégés par un casque et des lunettes en plastique, de grosses chaussures de sécurité aux pieds et un appareil de secours à la ceinture pour respirer si un incident se produisait. Pour Reinhold Adam, cette descente peu avant la fermeture définitive de la dernière mine de la Ruhr avant Noël est émouvante. La vie du retraité a été consacrée au charbon.
Pour moi, mineur, ça n'est pas un métier, c'est une vocation. On reste mineur toute sa vie. Pour moi, ça a commencé à 16 ans et aujourd'hui, c'est la dernière descente de ma vie. C'est historique pour moi. Un secteur économique complet disparaît. Mais tant qu'un mineur sera en vie, cette histoire continuera à vivre dans le cœur des gens.
Juste avant Noël, la dernière mine du bassin de la Ruhr fermera après 150 ans, la fin d'une époque décidée il y a 10 ans et qui s'est passée sans crise sociale majeure. Heinrich Theodor Grütter, le directeur du musée de la Ruhr.
Je crois que l'abandon prévu de longue date du charbon a donné lieu à de nombreuses mesures d'accompagnement, contrairement à ce qu'on a pu voir en Grande-Bretagne ou ailleurs. Les programmes de reconversion, les subventions ont permis de gérer cette transition de façon humaine et sans heurts.
Même si de nombreux mineurs ont du vague à l'âme.
Nous pourrions encore exploiter du charbon pendant 400 ans ici, mais ça n'est politiquement plus souhaité.
La crise du charbon a commencé dès la fin des années 50. Depuis, les mines ont fermé petit à petit. L'exploitation non rentable face à la concurrence internationale a été longtemps garantie par des subventions massives, 60 milliards d'euros sur les 20 dernières années. Le président de la République et d'autres responsables seront sur place à la mine Prosper-Agnel avant Noël pour sa fermeture officielle. Comme beaucoup d'autres, le directeur de la mine, Jürgen Kroker, partira le 1er janvier en pré-retraite.
Beaucoup de personnes vont pleurer le dernier jour. Elles ne pourront pas retenir leurs émotions.
Quelques centaines de mineurs continueront à travailler sur place ensuite pour démanteler les installations en sous-sol. Le charbon et les industries lourdes appartiennent au passé dans la Ruhr, comme le souligne le ministre des Affaires européennes de la région, Stefan Holthoff-Pförtner.
La qualité de l'air est bien meilleure. La Ruhr est une région verte aujourd'hui. Faites un tour en vélo, tout a changé.
Mais la transition reste difficile dans une région avec un taux de chômage deux fois plus élevé qu'ailleurs et des villes parfois sinistrées où la pauvreté gagne du terrain.
C'est un reportage de Pascal Thibault en Allemagne. Nouveau tweet étrange de Donald Trump en marge du G20. Le président américain dit vouloir enrayer la course aux armements avec la Chine et la Russie après avoir signé et vanté il y a peu une loi qui renforce les dépenses militaires américaines et après avoir il y a un mois tout juste expliqué que Washington allait bientôt se retirer du traité qui bannit les missiles nucléaires de moyenne et grande portée, traité signé avec le russe Gorbatchev en 1987. Et puis toujours au G20, américains et chinois ont enterré provisoirement la hache de guerre commerciale. L'augmentation des droits de douane prévue est reportée. Les deux puissances se donnent 3 mois pour trouver un accord. On termine avec le Qatar qui a décidé de quitter l'OPEP le mois prochain. On sait que le pays avait été mis au banc en 2017 des pays du Golfe, l'Arabie Saoudite. Saoudite et dans la foulée, les Émirats arabes unis, Bahreïn, l'Égypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec Doha. Mais c'est avant tout une décision économique, explique Francis Perrin, spécialiste des énergies à l'IRIS.
L'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui rassemble 15 pays, dont le Qatar, ne s'occupe que de pétrole brut. Par contre, le Qatar, lui, est un petit pays producteur et exportateur de pétrole, et un gros pays producteur et exportateur de gaz. Mais l'OPEP ne s'occupe pas du gaz naturel. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que le poids du Qatar au sein de l'OPEP est assez faible. Le Qatar, au moment où nous parlons, produit environ 600 000 barils par jour de pétrole brut. Cela représente moins de 2% de la production de l'OPEP, qui est actuellement de l'ordre de 33 millions de barils par jour. Je pense que ces deux facteurs sont les facteurs essentiels dans cette décision prise au plus haut niveau par les autorités qataries. L'avenir du Qatar, c'est le gaz naturel, en particulier le gaz naturel liquéfié, dont le Qatar est le premier exportateur mondial. Ce pays veut donc se concentrer au maximum sur le gaz par rapport au pétrole dans son portefeuille énergétique, et ce pays estime que l'appartenance à l'OPEP ne lui apporte pas forcément une valeur ajoutée significative, puisque l'OPEP, c'est le pétrole brut et ce n'est pas le gaz naturel.
Un petit mot de la météo. Demain, pluie et nuages attendus sur le pays. Il fera presque doux, 13 degrés à Bordeaux le matin et 5 à Lille. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun.